vous m'en direz tant ?
L'année 2021 est à marquer d'une pierre blanche pour les radios. En 1921, la première radio publique émettait depuis la Tour Eiffel. Nous célébrons donc un centenaire. Plus près de nous, en 1981, le monopole d'État pour la diffusion hertzienne était aboli, ce qui donnait le champ libre à tout un tas de radios dites « libres ». J'y reviendrai, jusqu'alors mise sous le boisseau. Et incidemment, cette année a débuté l'exploitation d'un nouveau type de transmission hertzienne, le DAB+. Procédons par ordre. Fin 1903, Gustave Eiffel craint que sa tour ne soit détruite et il la met à la disposition de l'armée. Le ministère de la guerre se hâte d'y aménager des installations afin de poursuivre les recherches sur la radiotélégraphie militaire sous la direction de Gustave Ferrier. La TSF, la télégraphie sans fil, était un progrès évident sur l'usage des pigeons voyageurs et même du télégraphe dont les câbles étaient des cibles faciles. Dans un premier temps, la vocation de la station de la Tour Eiffel est purement militaire, mais l'édifice devient vite un haut lieu de la conquête radiophonique, cette fois. Et en 1921, des progrès considérables ayant été faits, on passe de l'usage strictement militaire à l'exploitation publique. C'est fou ce que l'esprit guerrier de l'homme a permis de développer pour un usage pacifique. Le dispositif était lourd et le résultat plutôt mauvais, mais chaque jour, les amateurs de radio sans fil, les sans-filistes on disait, pouvaient entendre depuis l'émetteur de la Tour Eiffel un bulletin météo, les cours de la bourse et un peu de musique, et ce jusqu'à plus de 1000 km. On a longtemps dit la TSF, même s'il n'était plus question de télégraphie. Le terme de radio s'est imposé tout doucement, surtout après la Seconde Guerre mondiale, avec la célèbre radio de Londres. Mais des termes modernes datent de cette époque, tels que SFR, Société Française de Radiodiffusion, Radio France, qui, un an plus tard, émettait depuis une vraie station de radio autonome à Saint-Assise. Très vite, on a eu des radios d'État et des radios privées, comme Radio-La. Bref, le paysage radio de la France était en quelques années ébauché. Mais il faut retourner à la guerre. C'est au sortir de celle de 39-45 que le monopole d'État de la radiodiffusion a été instauré. C'était en réalité un vœu de tous les pouvoirs qui se sont succédés depuis l'invention du télégraphe. Pour la radio naissante, l'idée de l'emprise de la souveraineté nationale sur ce nouveau moyen de communication paraissait évident. Mais très vite, des radios commerciales, je vous ai parlé de radio là, ont vu le jour. En 1924, l'État essaye de reprendre la main, mais les radios privées contournent cette tentative en s'installant au-delà des frontières françaises. C'est pour ça qu'il y a eu Radio Luxembourg, Radio Monte-Carlo, Sud Andorre, Europe. L'État français en rêvait, les Allemands l'ont fait. La période de l'occupation a mis en évidence le rôle stratégique de la radio et on a assisté à une sorte de combat entre la BBC anglaise et les radios continentales contrôlées par les nazis. Le monopole d'État, qui naît en 1945, est finalement une remise en ordre de l'ordre ennemi. Et ce qui avait fonctionné en 1924 reprend du service après 1945, à savoir les installations périphériques des radios privées, commerciales, que le monopole national n'osait tout de même pas brouiller, et qui bénéficiaient des grandes ondes, leur permettant d'être captées sur des milliers de kilomètres. On a même vu des radios offshore, émettant depuis des bateaux, dans les eaux internationales. On parlait de radio pirate à l'époque. Et là, un bouleversement technologique est apparu. La modulation de fréquence. Elle ne coûtait pas très cher, ne nécessitait pas de grandes puissances de diffusion, donc de grands moyens industriels. elle a permis aux radios pirates, cantonnées au loin sur leur bateau, de s'implanter un peu partout sur le territoire. En toute illégalité, évidemment, mais avec un succès certain. On ne parlait plus de radio pirate, mais de radio libre, au sens où elles prenaient des libertés avec le monopole. Cela dit, leurs propos étaient aussi plutôt libérés. Raymond Barre, ministre de Giscard, voyait dans la bande FM un puissant réservoir d'anarchie. Mais c'était aussi la voix de l'opposition. Le candidat Mitterrand en avait profité, et donc, juste retour d'ascenseur, il avait promis d'abolir le monopole d'État. Promesse tenue en 1981. Les radios libres avaient donc conquis leur liberté. Qu'en faire ? Avoir le droit de faire une chose et être en capacité de la faire, ce n'est pas pareil. Les nouvelles radios dites libres avaient besoin d'argent. Beaucoup se sont tournés vers la publicité, qui avait le vent en poupe à ce moment. La plupart d'entre elles se portent toujours très bien aujourd'hui. Pour les autres, qui voulaient résister au pouvoir de l'argent, au dictat de la mode, il fallait impérativement trouver un minimum de ressources, au moins pour assurer la diffusion. Un autre élément important est d'ordre technique. La FM a une portée limitée, quelques dizaines de kilomètres. Cela a conduit les radios libres à devenir principalement des radios locales. Et ce mouvement a été encouragé par l'État, qui, sans le dire évidemment, a vu là un moyen de limiter l'impact des propos que tenaient les militants de ces radios. On pouvait s'attendre à ce que des radios locales soient soutenues financièrement par des collectivités territoriales. Eh bien, c'est rarement le cas, ou alors à dose homéopathique. Non. Paradoxalement, c'est l'État qui les soutient à partir d'un dispositif créé en 1986, 5 ans après la libération des ondes. Il s'agit du Fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'était bien sûr au nom de la liberté d'expression. Mais pour en bénéficier, les radios devaient être associatives et favoriser une expression locale. Donner de l'argent à ce qui est le plus souvent des ennemis politiques peut paraître curieux, mais maintenir en vie ces ennemis tout en limitant leur pouvoir est toujours une bonne façon de gouverner. Cela illustre la formule « la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours ». Autre considération, le FSER était le moyen de dissuader ces radios de plus en plus nombreuses de capter une partie de la manne publicitaire aux grandes dames de la presse locale et des radios nationales. Et les forces technologiques sont toujours là, un peu comme les mouvements tectoniques façonnent la Terre. L'arrivée du numérique est aussi importante que celle de l'AFM sur le destin des radios libres, mais locales, mais associatives. Car du coup, la notion de local prend un rude coup. L'AFM ne porte que sur quelques dizaines de kilomètres, mais les flux Internet font le tour de la planète. En même temps, comme dirait l'autre, l'écoute de la radio n'est plus la même. L'auditeur internaute s'affranchit des horaires, des grilles de programme, le podcast se rit de l'actualité autant que du local. Il va falloir réinventer la radio libre.